ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Good morning Tour.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Tour, il est 7h23, c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le vendredi 10 octobre et c'est le début de 50 minutes d'émission. Au programme aujourd'hui, l'Espagne célèbre sa fête nationale ce dimanche, un événement qui fait réagir certaines associations latino-américaines. Lucie Feuillolet interrogera une bénévole de la Maison Internationale Populaire, un squat autogéré qui lance une campagne de dons pour préparer l'hiver. L'organisation espère pouvoir accueillir plus de sans-abri pendant la saison froide. Les journalistes du Parisien se mobilisent face à la nouvelle d'un potentiel rachat du journal par Vincent Bolloré. Jules nous en dira plus. On évoquera ensuite des manifestations en Géorgie qui menacent le pouvoir alors que des élections locales se déroulent dans le pays. Et pour conclure l'émission, Martin nous parlera du GP Explorer dans son billet d'humeur. Tout de suite, je laisse la parole à Ludivine Meyer pour la présentation du Flash Info.
Une ébauche de cessez-le-feu. Israël a annoncé hier que toutes les parties ont signé la première phase du cessez-le-feu à Gaza. L'accord conclu entre Israël et le Hamas dans le cadre du plan Trump a été validé par le cabinet de sécurité israélien. Grâce à cette approbation, le cessez-le-feu peut entrer en vigueur. Le président américain Donald Trump a indiqué vouloir se rendre en Égypte la semaine prochaine pour une signature officielle de l'accord. Il affirme également que les otages encore retenus à Gaza pourraient être libérés dès lundi ou mardi. Robert Badinter est entré au Panthéon hier soir. La panthéonisation de l'avocat, ancien garde des Sceaux et militant historique de Toujours pour l'abolition de la peine de mort, a eu lieu hier soir lors d'une cérémonie solennelle voulue par Emmanuel Macron. Ce dernier a mis en avant les valeurs universalistes de l'homme politique. Dans la matinée, la tombe de Robert Badinter au cimetière de Bagneux avait été profanée. Une enquête a été ouverte. Au procès en appel des viols de Mazan, l'unique accusé qui a demandé à être rejugé a été condamné à 10 ans de prison, soit une année de plus qu'en première instance. Une peine assortie d'un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 5 ans, a annoncé le président Christian Pasta après près de 3 heures de délibéré et 4 jours d'audience. Gisèle Pelicot n'a fait aucun commentaire en quittant le tribunal sous les applaudissements de ses soutiens. Le flou persiste autour de la nomination du prochain Premier ministre. Mercredi soir sur France 2, Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, chargé par Emmanuel Macron de mener les consultations, s'est voulu optimiste sur les chances de survie d'un nouveau gouvernement. Il a évoqué la possibilité d'un alliage entre plusieurs groupes de députés. L'Élysée a promis une nomination d'ici 48 heures, mais aucune décision n'a encore été annoncée. À suivre dans la journée.
C'était le flash de Ludivine Meyer. Retrouvez le deuxième point d'information dans 20 minutes. Il est 7h25, vous écoutez bien Good Morning Tour sur Radio Campus. Et maintenant, on passe à UN, crise politique, colère populaire et jeunesse en révolte. Ce sont les mots qui résument aujourd'hui la situation à Madagascar. Youn, tu nous éclaires dessus ?
Oui, Lee, ce vendredi matin, je vous emmène sur les rives de l'océan Indien, et plus exactement sur l'île de Madagascar, qui traverse en ce moment une crise politique majeure. En effet, depuis une dizaine de jours, des manifestations meurtrières enflamment l'état insulaire et la situation semble être aujourd'hui hors de contrôle, je vous raconte tout ça. Ce jeudi 25 septembre 2025, c'est au sein d'Antananarivo, la capitale malgache, que tout a commencé. À l'image de l'Indonésie, du Népal ou encore du Maroc, la génération Z, qui représente donc les personnes nées entre les années 1990 et 2010, est descendue en nombre dans la rue afin de protester contre le gouvernement au pouvoir sur l'île Rouge. Malgré des affrontements violents avec les forces de l'ordre ayant fait 22 morts selon un rapport de l'ONU, la jeunesse malgache ne baisse pas les bras et continue d'investir les rues pour faire entendre sa voix. Dans un premier temps prise à la légère, les protestations ont finalement fait prendre conscience au président André Rajoelina la gravité de la situation. Le 29 septembre, dans l'optique d'apaiser des tensions et de montrer sa compréhension, tout le gouvernement a été renvoyé par le chef d'État franco-malgache lors d'une allocution télévisée. Cela n'a cependant pas freiné la génération Z à l'origine de ce mouvement protestataire qui demande désormais la démission du président. Malgré ce remaniement, le scepticisme demeure chez les malgaches. Après une répression violente, ils refusent de se laisser apaiser par des mesures jugées insuffisantes de la part d'un président déjà vivement critiqué pour son inaction et ses promesses non tenues.
Car oui, cette contestation sociale ne date pas de 2025.
En effet, Elise, dès son arrivée au pouvoir en 2009 en tant que président de transition, puis de nouveau en 2018 comme chef de l'État, Andry Rajoelina avait promis à la population de régler des problèmes majeurs tels que l'accès à l'eau potable ou à l'électricité, ou encore la sous-nutrition. Certaines familles n'ont même pas de quoi se nourrir ou s'hydrater, ce qui a notamment provoqué une grave famine dans le sud entre 2020 et 2021, aggravée par la sécheresse liée au réchauffement climatique, témoigne par téléphone Anaël, étudiante franco-malgache, inquiétée par la situation dans laquelle se trouve son pays d'origine.
Où en est la situation actuellement et à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours ?
Les prochains jours devraient être cruciaux pour l'avenir du président Andry Rajoelina qui, se retrouvant dos au mur et confronté à une pression sociale persistante, a décidé de se rapprocher de l'armée en nommant notamment un général comme premier ministre. Malgré l'appel au dialogue lancé par plusieurs pays, dont la France, la jeunesse malgache ne lâche pas et compte bien faire entendre sa voix, trop souvent restée inécoutée dans un pays gangréné par la corruption.
Le cri de la génération Z pour dénoncer la corruption a résonné à Madagascar et dans plusieurs autres pays du monde. Malgré la différence des circonstances, cette jeunesse a su s'unir autour de références de pop culture. On pense notamment au drapeau du manga One Piece. Samia nous parle du symbolisme de cet emblème.
Eh bien, cet emblème est l'étendard de tous ceux qui refusent de plier les chines. Les jeunes hyper connectés de la génération Z ont posé leur téléphone et hissé un drapeau avec un symbole qui les réunit dans leur contestation où qu'ils soient dans le monde. On le voit partout, dans les rues de Jakarta, de Rabat ou de Katmandou, ce crâne qui sourit, coiffé d'un chapeau de paille au bandeau rouge. C'est l'emblème de l'équipage pirate de Luffy, le protagoniste du fameux manga japonais One Piece. Le manga raconte comment Luffy, un jeune pirate, rêve de trouver le One Piece, un trésor légendaire qui ferait de lui le roi des pirates. Ces jeunes de la génération Z suivent alors ses pas, qui voyagent, les pas de ce héros qui voyage d'île en île pour affronter les gouvernements corrompus. Et comme lui, ils sont là pour dénoncer l'autoritarisme et lutter contre l'inégalité et la discrimination sociale sous toutes ses formes. Et même dans une mer agitée, ils continuent de naviguer. Parce que ce qui se cache derrière cette histoire de jeunes pirates est en effet une épopée politique. Elle nous raconte que la liberté vaut plus que la gloire et que le rire est une arme contre la peur. Un symbole fort qui porte une voix unique, celle d'une génération en colère qui partage les références de pop culture commune, favorisées par l'effet de la mondialisation et de la culture d'Internet qui les a bercées. Aujourd'hui, hisser ce drapeau dans les rues, c'est avant tout une forme de résistance. Une résistance contre l'histoire qui s'écrit par le pouvoir et les gouvernements en place. Les jeunes annoncent alors le début d'un long combat pour se saisir de la plume du temps et écrire une nouvelle version de l'histoire qui serait cette fois-ci la leur. Si plusieurs gouvernements ont tenté de décrédibiliser le mouvement, notamment suite aux épisodes de la violence, la jeunesse, elle, a résisté pour continuer à les déstabiliser. Sur les mers du nouveau monde de One Piece, les marines et le gouvernement mondial craignent cet emblème, parce qu'il leur rappelle que renverser l'ordre établi n'est finalement qu'une question de temps. Une crainte qui a trouvé écho en Indonésie, où l'univers du manga et celui du monde réel se sont croisés. Depuis le début du mois d'août dernier, les autorités indonésiennes ont interdit aux manifestants de brandir ce drapeau, désormais perçu comme une forme de trahison. On voit bien alors que le parallélisme devient très frappant entre le monde de Luffy et le nôtre. Donc, si la génération Z l'a choisi comme symbole, c'est d'abord pour son message universel et puis pour sa promesse d'espoir. Quand le pouvoir ment et massacre, on hisse le pavillon, on rassemble son équipage et on fait lever un jour nouveau.
Merci Samia pour ces explications. Comme la jeunesse, on continue de naviguer sur les ondes de Good Morning Tour. Il est 7h31, on va marquer une petite pause musicale avec le titre « La maison » de la chanteuse Marguerite.
Petite fille dans grande maison, cherche papa, il est pas là. Maman s'occupe des garçons, petite fille dit que ça va. Les dimanches matins sont longs, prier Dieu ça sert à quoi? Dictée, Game Boy, télévision, demain école c'est la pression. Pourquoi ça me fait bizarre de rentrer? Pourquoi ça me fout le cafard? Rien d'y penser, je suis pas chez moi, à la maison. Y'a des trucs qui tombent pas rond. Moi je veux construire ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai. Grande fille dans petit appart. Paris 9 et ligne 4. Y'a mes copines.
copines sur le canapé. C'est pas un salon, c'est un squat. Les dimanches soirs, je suis solo. Je pense à des trucs pas rigolo. En dépression sur mon vélo, je me répète que le monde est beau. Pourquoi ça me fait bizarre de rentrer? Pourquoi ça me fout le cafard? Rien d'y penser. Jamais chez moi, à la maison. Y'a des trucs qui tournent pas rond. Moi je veux construire ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai. Des silences qui en disent long. Moi je veux construire ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai. Moi je veux construire ma maison. J'y mettrai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai.
C'était La Maison de Marguerite. Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours sur Radio Campus. Ce dimanche 12 octobre, la fête nationale espagnole sera célébrée par un défilé militaire de 3 heures à Madrid. Un symbole de violence coloniale selon de nombreuses associations latino-américaines qui appellent à une contre-manifestation.
Cérémonie du lever de drapeau, défilé militaire jusqu'à la place Christophe Colomb, concert de l'église catholique... Tel est le programme de ce dimanche à Madrid. Une démonstration de la puissance nationale, plus de 500 ans après l'arrivée des colons espagnols en Amérique, le 12 octobre 1492. Depuis 2012, plus de 70 associations latino-américaines se réunissent sous le mouvement « Décolonisons-nous » pour demander la suppression du 12 octobre comme fête nationale espagnole. « Vous célébrez un génocide », s'indignaient deux femmes du collectif lors de la contre-manifestation de 2024, avant de préciser « celui des populations indigènes d'Abiayala. Abiayala est le nom originel du continent américain. Celui-ci était peuplé par 57 à 90 millions de personnes, parlant plus de 200 langues avant sa colonisation par les Européens. Loin d'être le jour d'une soi-disant découverte de l'Amérique, les acteurs du mouvement Décolonisons-nous considèrent le 12 octobre comme le début de la destruction de cultures et le pillage de terres américaines. Depuis 5 ans, la communauté de Madrid organise également un festival de l'hispanité à l'approche du 12 octobre. Une semaine d'événements culturels gratuits avec notamment des concerts d'artistes issus des anciennes colonies espagnoles. Dimanche 5 octobre, 35 000 personnes ont assisté au concert gratuit de la chanteuse cubaine Gloria Estefan, place Christophe Colomb. Selon l'association latino-américaine Plaza de los Pueblos, la place des peuples en français, cette prétendue fraternité linguistique et culturelle ignore complètement le processus violent par lequel elles se sont imposées dans les territoires colonisés.
En Amérique latine, est-ce que le jour du 12 octobre est célébré ?
Sous le nom « Journée de la résistance indigène au Venezuela, au Nicaragua et au Guatemala »,« Journée de la rencontre des deux mondes au Chili » ou encore « Jour des peuples autochtones au Pérou », le 12 octobre est commémoré dans l'ensemble des anciennes colonies espagnoles. Jusqu'au début des années 2000, le nom générique était « Jour de la race ». Celui-ci a été modifié dans le but de rendre hommage aux peuples autochtones et de revendiquer leur lutte contre la colonisation européenne.
Ce dimanche 12 octobre à 16h30, une contre-manifestation sera organisée par le collectif « Décolonisons-nous » à Madrid, Bilbao, Barcelone, Valence et Séville. Comme chaque année, les manifestants antiracistes dénonceront que le 12 octobre, il n'y a rien à célébrer. Chers auditeurs, nous partons pour la Géorgie, ex-république soviétique du Caucase de 3,6 millions d'habitants, où des manifestations ont éclaté ce samedi dernier pour protester contre le résultat des élections locales.
Samedi dernier, en Géorgie, une manifestante confiée à nos confrères de France 24 « On se bat pour nos droits, notre indépendance, on veut que notre pays soit membre de l'UE, on ne souhaite pas revenir à l'Union soviétique. » Des drapeaux européens et géorgiens dans la main de dizaines de milliers de manifestants dans la capitale Tbilissi pour revendiquer l'espoir d'intégrer un jour l'Union européenne. Le feu aux poudres a été déclenché par le boycott des élections locales par les oppositions alors que le parti au pouvoir depuis 2012 rêve géorgien, revendique d'avoir remporté la majorité des municipalités. Pourtant, Lise, la crise politique est durable dans le pays. Depuis 2024, le pays est en ébullition face à des élections législatives remportées par rêve géorgien, mais considérées comme truquées par l'opposition occidentale et le Parlement européen. Un chiffre révèle le mécontentement de la population. Dans un récent sondage, l'Institut d'études et d'analyse sociale évalue la cote de popularité de rêve géorgien à environ 36% contre 54% pour l'opposition.
Mais alors, pourquoi il y a des manifestations ?
Les raisons sont multiples. Rêve géorgien promettait aux électeurs de poursuivre les négociations pour entrer dans l'UE dans une disposition de la Constitution en 2017, avant de finalement geler en 2024 complètement le processus d'adhésion jusqu'à fin 2028. Alors que l'Institut NDI révélait qu'en 2023, que 86% des personnes interrogées sont favorables à l'intégration européenne. Depuis, la Géorgie tend de plus en plus vers une dérive autoritaire. Le parti a fait désigner le président Mikhail Kavelachvili, ex-footballeur d'extrême droite. Une loi contre les agents étrangers dénoncée par l'UE a été votée. Les communautés LGBT sont dénigrées. Les manifestations se sont, elles, terminées par une tentative échouée d'occuper le palais de la présidence. Et les oppositions craignent à présent qu'elles ne soient instrumentalisées par rêve géorgien. Suite aux manifestations, le premier ministre géorgien Irakli Kobakidze s'en est pris à l'opposition. Je cite « Cette force politique, un réseau d'agents de l'étranger, sera complètement neutralisée et ne sera plus autorisée à intervenir dans la politique géorgienne. Le Conseil constitutionnel, inféodé au pouvoir en place, a été saisi pour bannir certains partis d'opposition. Ce n'est donc plus qu'une question de temps. »
Le gouvernement se calque donc de plus en plus sur les mesures de répression du Kremlin. Il est 7h39, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. Tout de suite, on écoute Mélodrama de Théodora Diziz.
Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Comme un condensé mêlé mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Quand je pleure, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en un pas deux. Tu ne l'as plus d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER. Si ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air. Je suis comme ce son que t'aurais pas.
Ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation.
Je suis comme ce son que tu.
pourrais pas. Chassable, y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
C'était Théodora Diziz avec son titre Mélodrama. Vous êtes toujours sur Good Morning Tour et on retourne dans l'actualité avec des contestations de journalistes aux Parisiens. La rédaction est sur les nerfs depuis cet été et les premières rumeurs de vente du quotidien détenu par Bernard Arnault à un autre milliardaire, Vincent Bolloré. Les journalistes se mobilisent. Ils ont fait grève il y a 2 semaines et depuis ce lundi, ils entament une autre forme de protestation. Jules nous en dit plus.
Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez lu le journal ce lundi. Un léger changement est apparu sur de nombreuses pages. En tête des articles, on ne retrouve plus les noms et prénoms des auteurs, mais une simple inscription, Le Parisien. Tous les lundis, c'est désormais de cette façon que seront signés les articles du quotidien. La revendication des grévistes, car ce sont des grévistes, est claire. Le journal doit respecter ses engagements en matière d'embauche.
À quoi font référence les journalistes ?
Eh bien, en mars, la direction du Parisien a annoncé un plan de réorganisation et de départ volontaire. Un départ pris par 40 salariés qui devaient être remplacés par 17 embauches en CDI. Et c'est ce qui pose problème. À l'heure actuelle, aucune titularisation n'a été effectuée. Le journal fait pourtant appel à de nombreux journalistes en CDD. Les grévistes dénoncent donc de mauvaises conditions de travail, mais pas seulement. L'ombre de Vincent Bolloré inquiète. Le milliardaire réactionnaire, propriétaire de CNews, Europe 1 ou encore du JDD, serait intéressé par un rachat du titre francilien.
C'est aussi ce qui inquiète les journalistes du Parisien, que leur journal devienne un relais de la droite réactionnaire.
Oui, on parle là du troisième quotidien le plus diffusé dans le pays. Avec son édition nationale aujourd'hui en France, Le Parisien, c'est plus de 260 000 exemplaires vendus chaque jour. 260 000 tirages quotidiens qui pourraient donc s'ajouter à la sphère bien remplie des médias d'extrême droite.
Le 23 septembre, Pierre Louette, le PDG du groupe Les Échos Le Parisien, a indiqué qu'il n'y avait pas de processus de vente du Parisien en cours à sa connaissance. Pour autant, la rédaction reste mobilisée et la grève des signatures se poursuit ce lundi. Il est 7h44, tout de suite, les informations par Ludivine Meyer.
Le flou persiste autour de la nomination du prochain Premier ministre. Mercredi soir, sur France 2, Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, chargé par Emmanuel Macron de mener les consultations, s'est voulu optimiste sur les chances de survie d'un nouveau gouvernement. Il a évoqué la possibilité d'un alliage entre plusieurs groupes de députés. Le président de la République invite les chefs des partis, sauf ceux de LFI et du RN, à 14h30 aujourd'hui à l'Élysée, à suivre dans la journée. Une grève devant le BHV de Paris débute cet après-midi. Les salariés protestent contre l'arrivée de 6 magasins Shein. Le géant chinois de l'ultra fast fashion doit s'implanter le mois prochain dans le magasin parisien, mais aussi dans plusieurs galeries Lafayette à travers la France. Une ébauche de cessez-le-feu. Israël a annoncé hier que tous les partis ont signé la première phase du cessez-le-feu à Gaza. L'accord conclu entre Israël et le Hamas dans le cadre du plan Trump a été validé par le cabinet de sécurité israélien. Grâce à cette approbation, le cessez-le-feu peut entrer en vigueur. Le président américain Donald Trump a indiqué vouloir se rendre en Égypte la semaine prochaine pour une signature officielle de l'accord. Il affirme également que les otages encore retenus à Gaza pourraient être libérés dès lundi ou mardi. Le sprinteur français Arnaud Démare dit stop. Le Picard de 34 ans, qui compte 97 victoires professionnelles, prendra le départ de Paris-Tours dimanche pour la dernière fois. Dans un message publié sur Instagram, le coureur d'Arkea B&B Hotel a annoncé que l'heure est venue. Moins présent sur les podiums ces dernières saisons, Démare reste une figure majeure du cyclisme français, vainqueur notamment de plusieurs étapes sur le Tour de France.
C'était un photoreporter aguerri, lauréat du prix Victor Hugo 2024. Son travail a été publié dans de nombreux médias comme Le Monde, Le Figaro ou encore Libération. Il a effectué de nombreuses missions, notamment en Arménie, en Israël ou encore en Syrie. Le journaliste Anthony Lavican a été tué en Ukraine le vendredi 3 octobre dernier. Clara Danry.
En effet, le photoreporter était en mission dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, lorsqu'il a été victime d'une attaque de drone. Selon les autorités ukrainiennes, il était en mission avec la 4e division blindée lorsque c'est arrivé. Cet événement a provoqué une vive émotion dans le monde du journalisme. Des proches du photoreporter ont rendu hommage à un homme, je cite, « empathique, pudique, professionnel et profondément humain ». 2 jours plus tard, le parquet national antiterroriste a annoncé ouvrir une enquête pour crime de guerre. Alors pour savoir de quoi on parle, le crime de guerre aujourd'hui est défini comme une atteinte volontaire à la vie et l'intégrité physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire. Les autorités ukrainiennes ont assuré que le reporter a été ciblé alors qu'il était dans une voiture identifiée presse, selon l'ONG Reporters sans frontières. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Sibiga, affirme que la Russie continue de délibérément cibler les journalistes. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les crimes de haine, pardon. Alors, pour bien comprendre ça d'un point de vue juridique, il faut savoir que les journalistes sont explicitement protégés par le droit humanitaire international. Ils sont considérés comme des civils aux yeux de la Convention de Genève. Le but de l'enquête est donc d'établir si la frappe visait un équipement civil clairement identifié. La nature du drone est d'ailleurs un élément primordial de l'enquête, puisqu'il s'agissait d'un drone FPV, First Person View, qui offre donc une identification visuelle de la cible.
Cet événement s'inscrit dans un contexte plus large, n'est-ce pas ?
En effet, Lise, le cas d'Anthony Lalican est loin d'être isolé. Le nombre de journalistes tués en Ukraine depuis le début de la guerre en 2022 varie en fonction des sources, mais Reporters sans frontières rapporte que, je cite, « la mort d'Anthony Lalican porte à 14 le nombre de reporters tués depuis l'invasion russe, dont 4 avaient la nationalité française ». Dans un article publié sur leur site, pas plus tard qu'hier, RSF dénonce la propagande diffusée sur certains sites pro-russes afin de justifier le meurtre d'Anthony Lalican, traitant le photojournaliste de propagandiste. Il dénonce également un message diffusé par l'unité de dronistes russes sur sa chaîne Telegram le lendemain de l'attaque. Le poste appelé à viser systématiquement les pare-brises des véhicules militaires circulant dans la zone et ajouté, je cite, que si un journaliste, entre guillemets, français qui recrutait des mercenaires étrangers pour les forces armées ukrainiennes se trouve dans un véhicule militaire, visait aussi le pare-brise. Selon RSF, cette opération de désinformation vise à délégitimer le travail indépendant du photoreporter et à minimiser le caractère ciblé de l'attaque contre des civils. Cette problématique autour des journalistes tués en Ukraine s'inscrit dans une campagne plus large menée par Reporters sans frontières. En mai dernier, l'organisation publie sur son site un rapport intitulé « Dernier check-in, les frappes russes contre les hôtels ukrainiens réduisent la presse au silence ». Ce rapport est dressé en partenariat avec l'organisation ukrainienne de défense des droits humains Truth Hounds et il est alarmant. Les deux organisations reviennent sur les frappes russes récurrentes contre des hôtels hébergeant des journalistes depuis le début du conflit russo-ukrainien, affirmant que ces frappes sont, je cite, « planifiées et délibérées ». La mort d'Anthony Lalican ravive donc des problématiques brûlantes, et le directeur général de RSF, Thibaut Brutin, appelle les autorités autant françaises qu'ukrainiennes à, je cite, « établir toutes les responsabilités et identifier les auteurs de cette frappe afin que ces crimes contre les journalistes cessent ».
Les résultats de l'enquête sur la mort du photoreporter n'ont pas encore été publiés. Selon RCF, sur l'année 2024, ce sont au total 104 journalistes qui ont été tués en pratiquant leur métier. Le 18 avril, la Maison Internationale Populaire, plus communément appelée la MIP, ouvrait ses portes. Ce squat anarchiste autogéré de Tours propose depuis la fin de la trêve hivernale un toit à des personnes sans logement. Au micro de Lucie Feuillolet, Germaine, bénévole à la MIP, présente le projet.
Il y avait une dizaine de familles à la rue cet hiver, avec des solutions d'hébergement toujours à l'arrache, dans des gymnases, des rotations du 115, donc de l'hébergement à Tours, c'est le mardi. Donc il y avait vraiment tous les mardis soirs une mobilisation pour essayer d'avoir des chambres d'hôtel pour les familles, vraiment un peu au cas par cas, et pour les autres, un logement en gymnase, avec le fait que les familles devaient quitter le gymnase à 8h pour n'y rentrer qu'à 18h, donc se retrouver à la rue en journée avec leurs affaires. Enfin bref, des conditions qu'on jugeait absolument indignes. Et c'était un peu pour proposer quelque chose d'autre que ce bâtiment a été réquisitionné pour pouvoir proposer aux familles un hébergement plus pérenne, plus digne. Il y a un grand bâtiment d'habitation qui compte 25 chambres. Il y a un autre grand bâtiment qui compte une quinzaine de pièces, une partie d'habitation et une partie de pièces de réunion. Il y a encore une grande salle qui sert de cuisine et une autre salle qui sert un peu de salle commune. Et il y a un grand extérieur avec des platanes, un grand barnum. Il y a environ 80-90 personnes qui habitent ici, donc des familles avec des enfants, des mineurs non accompagnés, des femmes seules aussi. Voilà, et le squat marche un peu sur deux pattes. Une patte qui est donc cette partie hébergement et qui se veut un hébergement en dehors des logiques de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on ne propose pas une rotation, on propose aux gens de se poser vraiment ici. Et quand les gens ont une chambre, ils ont une clé de leur chambre et il n'y a que qui ont les clés. Enfin bref, ils ferment la porte, ils sont chez eux. Et une autre partie qui est plutôt hébergement des luttes, lieu politique à Tours. pour s'organiser pour toutes les personnes progressistes de gauche pour essayer de construire ensemble une convergence des luttes et d'essayer de construire un monde qui nous plaît plus que celui actuel. Là, la MIP, on a fait une première grosse cagnotte qui servait un peu à pallier les premières urgences du début et de pouvoir acheter un peu les éléments de base. Un des gros achats, c'est les panneaux solaires qui sont en train d'être montés sur le bâtiment à l'entrée, qui permettront d'avoir un peu d'électricité. Là, pour la suite, les besoins, c'est plutôt de dons réguliers. Et donc, la cagnotte qu'on va lancer là incessamment sous peu dans les prochains jours, ça va être plutôt une cagnotte où on demande aux gens de s'engager à verser 5 euros par mois. Pour donner une idée rapidement des coûts, c'est le carburant pour le groupe électrogène qui fournit l'électricité, les bouteilles, les bonbonnes de gaz pour la cuisine, les produits d'entretien et les produits d'hygiène, savon, gel hydroalcoolique, masque voilà, pour se protéger de l'hiver. Et après, il va y avoir une deuxième cagnotte qui est là plutôt une cagnotte d'investissement et pour plutôt des achats de fonds et après toujours des appels à dons. On a besoin de duvets, on a besoin de lits superposés, on a besoin de matériaux isolants pour l'hiver.
Pour déposer vos dons, rendez-vous au 178 rue Valvaine à Tours. Une cagnotte Litchi est également disponible. De notre côté, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour découvrir le deuxième épisode de cette série d'interviews à la MIP. Tout de suite, on écoute Shark Island de Tila Hassine et on se retrouve juste après pour la chronique sport de Mathis Modé. Rock. Song. Wind. Scars. Lost. Soul. Oh. C'était le titre Shark Island de Tilassine à l'antenne. On parle maintenant sport. Dimanche dernier, les championnats d'Europe de cyclisme se sont déroulés en Drôme-Ardèche. Les deux fantastiques Tadej Pogačar et Remco Evenepoel étaient attendus au tournant, une semaine seulement après les premiers mondiaux organisés sur le continent africain à Kigali, au Rwanda. Ils ont tous deux répondu présents à l'instar de Paul Sexas, étoile montante du cyclisme français, qui a fait éclat de tout son talent. Récit Mathis Maudet.
À chaque fois qu'il accroche un dossard, Tadej Pogačar marque un peu plus l'histoire de son sport. Les victoires en solitaire, il en a fait sa spécialité. Dimanche, le Slovène a démarré à 76 km de l'arrivée, sur le parcours sinueux tracé autour de Guilherand-Grange, pour aller décrocher son premier titre européen. Un scénario similaire à celui des Mondiaux à Kigali, une semaine plus tôt, où Poggi s'était isolé à plus de 100 km de l'arrivée, avant de remporter son deuxième titre mondial. Vainqueur du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et lauréat de son quatrième Tour de France cette année, Poggi a étoffé son palmarès en 2025.
Et ce, même si la concurrence est rude.
Et oui, sur ces deux courses, son dauphin n'est nul autre que le Belge Remco Evenepoel. Le triple champion du monde du contre-la-montre aura à chaque fois tenté de suivre Pogačar lors de ses accélérations, avant de se rasseoir sur sa selle et de laisser filer le numéro 1 mondial. Remco Evenepoel a constaté la supériorité de son rival sur les courses d'un jour. Ce qui contraste avec l'effort en solitaire, car le Belge a réalisé un doublé historique en devenant champion d'Europe du contre-la-montre pour la deuxième fois de sa carrière, quelques jours après avoir humilié Pogačar sur le chrono de Kigali en le dépassant dans la montée finale et le reléguant à plus de 2 minutes.
Et côté français, qu'en est-il, Mathis ?
Eh bien, il suffit d'écouter pour comprendre. J'avoue avoir eu des frissons quand j'ai vu Paul Sexas aux côtés de Pogačar et Evenepoel sur le podium de ces championnats d'Europe dimanche dernier. À seulement 19 ans et pour sa première saison chez les pros, le Lyonnais a épaté tout simplement. En remportant la médaille de bronze en Drôme-Ardèche et se classant 13e des mondiaux, il a été le meilleur français de cette campagne. Appelé pour la première fois en équipe de France par Thomas Vauclair, le sélectionneur, qui s'est d'ailleurs félicité du résultat au micro de l'équipe.
C'est une magnifique troisième place, hein, Paul. C'est le premier des autres. Et vous m'entendez souvent dire aussi, quand la victoire est inaccessible et qu'on ne peut pas l'obtenir, on se satisfait d'un accessite. Mais là, c'est plus qu'un accessite, c'est une formidable médaille de bronze.
L'équipe Decathlon AG2R du jeune français a annoncé hier que Paul Sexas participera pour la première fois au Tour de Lombardie, course remportée les 4 dernières années par un certain Tadej Pogačar et convoitée par Remco Evenepoel, également annoncé sur la startlist. Le rendez-vous est donc donné demain pour le dernier monument de la saison lise.
Cette course italienne porte le même surnom que Paris-Tours, la classique des feuilles mortes qui arrivera à boulevard Béranger ce dimanche après-midi à Tours. Parmi les coureurs annoncés favoris au départ, le Danois Mats Pedersen, champion du monde en 2019, et un certain Arnaud Démare qui mettra un terme à sa carrière sur cette course. Clara, cette semaine, tu nous parles du Winter Arc, cette nouvelle tendance qui tourne en boucle sur TikTok. Déjà très présente l'année dernière, elle revient en force à compter du 1er octobre. La mission, devenir une nouvelle version de soi-même en 90 jours. Mais derrière cette promesse de transformation, qu'est-ce qu'il se cache vraiment ?
Marcher 10 000 pas par jour, boire 2 litres d'eau, régime zéro sucre, lire 10 pages et tout ça tous les jours. Cette année, c'est un peu le kit de base pour faire son winter arc. En bref, c'est profiter d'une période un peu calme comme l'automne ou l'hiver pour se reconcentrer sur soi-même. Et qui dit se reconcentrer inclut pour certains, une pratique régulière du sport, une alimentation saine et 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Une occasion pour les adeptes de ce défi de faire le point avec eux-mêmes. Popularisé par Carly Page, d'après le média américain Woman Health, le challenge ne concerne pas seulement le sport. Emprunté aux séries et aux mangas, le Winter Arc est un nouveau chapitre, un nouveau récit de vie pour être méconnaissable en janvier. Et bien sûr, tout ça se documente sur les réseaux sociaux avec des vlogs et des vidéos quotidiennes.
À l'origine, le concept vient de la musculation. Le Urban Dictionary le définit comme une période où chaque homme doit faire face aux défis mentaux et physiques de l'hiver, une période où il faut baisser la tête et faire avancer les choses. Mais Clara, la pratique a ses limites.
En effet, Lise, si ces habitudes peuvent nous faire du bien, reprendre le sport, mieux dormir, elles peuvent aussi devenir culpabilisantes. Elles glorifient la productivité, le contrôle de soi, la performance. Une vision très productiviste de la vie qui a de quoi mettre la pression aux personnes qui scrollent. Beaucoup se sentent en retard, se comparent ou même carrément nuls s'ils n'ont pas une journée productive. Comme si les longues matinées dans son lit pour se reposer étaient devenues un échec. Donc le challenge... Dans le challenge, les habitudes poussent à se recentrer uniquement sur soi, à passer plus de temps à lire, à écrire, à faire du journaling. Mais attention, à force de se couper du monde, on peut facilement glisser vers la solitude, l'anxiété, voire même de la déprime. Et en hiver, quand la lumière manque déjà, ça peut vite devenir dangereux pour le moral. Même les animaux hibernent et prennent du temps pour eux de façon saine. Alors c'est ok de prendre du temps pour se reposer en hiver, et pas que.
Une tendance qui rappelle un peu la clean girl esthétique, les summer bodies ou ces routines ultra intenses avec des réveils à 6h du matin, mais pas très compatibles avec les sessions raclette fondue chocolat que laisse sous-entendre la période hivernale. On passe maintenant à l'agenda culturel, découvrez les sorties du moment à Tours avec Samia.
Eh bien, la saison des concerts d'automne est lancée. Vous pourrez voyager dès ce soir dans l'univers baroque italien avec la messe Stella, un hommage aux deux générations des Scarlatti qui résonnera à l'église Saint-Julien dans le Vieux Tours à 20h. Si vous le ratez, pas de panique, les concerts d'automne se poursuivent jusqu'au 19 octobre. Vous pourrez par exemple vous rattraper demain, samedi 11 octobre, toujours à 20h, cette fois-ci au Palais des Congrès de Tours, pour assister à la symphonie de clavecin dirigée par le chef franco-américain William Christie. Il sera accompagné de Justin Taylor. La 13e édition du projet Outre-temps Newtopia présente son 6e volet à la salle capitulaire des Celliers Saint-Julien, porté par l'équipe d'Omnivian en collaboration avec le service psychiatrique du CHU de Tours. Ce projet collectif tisse un lien rare entre art, soins et perception du temps. Jusqu'au 12 octobre, un parcours sensible, émouvant s'y déploie autour du temps avec ateliers, concerts, projections et expositions. Insaisissable comme il est, le temps passe, efface et nous dépasse, mais l'équipe de Newtopia tente tout de même de le retenir par une programmation articulée en plusieurs temps. D'abord, le samedi, vous pouvez participer à un atelier inclusif d'expression picturale animé par Aurélie Lefebvre de 14h à 16h, puis en soirée de 20h45 à 22h, profitez d'une performance de danse signée Benoît Pradier, suivie de la projection du documentaire L'Échappée, en présence de son réalisateur Ivan Pousset. Prévoyez entre 8 à 12 euros pour y assister. Et enfin, dimanche, le dernier jour, promet un bouquet final dès 16h avec des performances en vidéo-art, danse improvisée et buffet festif. Toujours en lien avec le temps, cette fois-ci du côté du tempo, le rappeur Medine vous donne rendez-vous au Temps Machine à jouer les tours le samedi 11 octobre à 19h30. La première partie sera assurée par Linky et Mephisto. Et bonne nouvelle pour les 12-25 ans, tous les concerts du Temps Machine sont éligibles à la cagnotte Yeps. Sinon, si vous cherchez plutôt à puiser dans l'histoire du temps, direction La Riche, une dernière chance pour découvrir ou redécouvrir l'exposition Soignée Coréam, présentée au prieuré Saint-Côme depuis le 12 juin et qui finit ce dimanche. C'est une exposition qui propose une immersion scientifique et didactique articulée autour de pièces archéologiques exceptionnelles, de reconstitution et d'archives.
Merci Samia pour ces idées de sortie ce week-end. On arrive bientôt à la fin de cette troisième matinale de la saison. Il est 8h06. Avant de se quitter, Martin nous fait part de son humeur concernant le GP Explorer. Bonjour.
Bonjour.
Dimanche 5 octobre, l'Espagnol Carchez a remporté la dernière édition de l'événement de Squeezie. Martin, tu as passé une soirée contrastée.
Dimanche soir, j'étais seul. Seul comme de nombreuses personnes devant l'écran noir de nos ordis. Le live Twitch est terminé et je peine à me faire à manger. Je suis dans ce que TikTok a renommé la dépression post-GP Explorer. Alors je gamberge en boucle. En boucle, devant la solidarité des mécaniciens venus pour remplacer le turbo de la voiture de SCH. En boucle, à l'écoute de la radio de Squeezie qui propose de lui offrir sa monoplace. En boucle, sur les 10 secondes qui séparent les deux premiers. Mais qui a invité cet Espagnol parce que oui, Catsup a gagné dans nos cœurs. En boucle, devant les vidéos que cet ami nous envoie chaque jour depuis une semaine. En boucle, devant le podium. En boucle, devant les au revoir. Alors oui, le GP Explorer tel qu'on le connaît, c'est fini. Ce n'était pas parfait. Squeezie a créé une fausse course où ses potes se transforment en panneaux publicitaires, le tout avec des engagements écologiques encore moins clairs que les 24 heures du Mans. J'avoue même avoir été gêné devant Dwagby qui s'extasie devant le passage de la patrouille de France. Mais ce que je retiens aussi, c'est que l'empereur du Chao Kombucha nous a tous rassemblés. Rassemblés, internet et la télévision. Mes frangins, mes parents dans le salon, Alia, Tomine et moi, il est temps de mettre fin à cette boucle. Merci pour les émotions.
Mais le GP Explorer ne va pas disparaître totalement. Il pourrait prendre la forme d'un championnat, a expliqué Squeezie, le moyen pour des passionnés sans moyens de se lancer dans la course automobile. Il est 8h07 et c'est la fin de cette matinale. Merci aux auditeurs d'avoir passé cette heure avec nous et merci à ceux qui ont participé. Ludivine Meyer, Youn Rollin, Samia Ashraki, Rachel Rigiraudot, Lucie Feuillolet, Lisa Liakovic-Blois, Jules Frécon, Clara Danry, Mathis Modet, Clara Baudard, Martin Collas. On n'oublie surtout pas Angelina Richard qui a assuré à la régie technique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous, bonne journée à toutes et à tous.